droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation Aoussi Potin.
Bonjour à tous. En 2024, dans le cadre de votre magazine Mon droit au quotidien, nous vous avons proposé différents sujets portant sur vos droits et devoirs. Ce début d'année 2025, nous vous invitons donc à écouter ou à réécouter, pour les plus fidèles parmi vous, des extraits de quelques sujets que nous avons jugés pertinents. Soyez les bienvenus à ce best-of de votre magazine Mon droit au quotidien sur Radio de la Paix.
Best-of 2024 de Mon droit au quotidien.
Capitale économique de la Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan connaît un véritable boom dans le domaine de l'immobilier, sans toutefois parvenir à combler les besoins énormes des populations. Selon les données récentes, le déficit en logement à Abidjan est estimé à environ 200 000 unités. Et ce chiffre augmente rapidement en raison de la forte croissance démographique et de la faiblesse de l'offre de logement. Environ 69% des ménages à bas revenus sont locataires et cherchent à investir dans leur propre logement. Dans cette quête, nombreux parmi eux s'attellent à acquérir un terrain pour bâtir la maison de leurs rêves. Mais que de déboires et de malversations bien des fois jalonnent cette quête. En avril 2024, nous recevions Jean-Louis Lobé, juriste et expert en droit immobilier, pour des conseils avisés lorsque vous cherchez à acheter une parcelle pour bâtir votre bien immobilier. Extrait de quelques moments forts de cet entretien qui a eu lieu en deux parties.
Deux fois par semaine, rendez-vous pour découvrir vos droits et devoirs dans Mon droit au quotidien.
Bonjour Jean-Louis Lobé.
Bonjour Monsieur Aoussi, bonjour à nos auditeurs.
Jean-Louis Lobé, lorsque l'on parle de ruée vers les terrains d'Abidjan aujourd'hui et villes environnantes, l'on se rend compte qu'il y a deux acteurs principaux qui apparaissent. Il y a des particuliers qui vendent des terrains d'une part, et aussi des sociétés immobilières, des entrepreneurs dans le domaine immobilier, qui eux aussi proposent et vendent des terrains. Alors entre ces deux entités, quelle est celle qui offre plus de garanties et pourquoi?
Je dirais déjà les sociétés immobilières, les agences, surtout celles qui sont agréées, reconnues par l'État, parce que ces agences-là sont cataloguées, ont très souvent des sièges sociaux, et pour les cas où il y a des difficultés, on pourrait se référer à elles facilement. Alors que quand on achète un terrain avec un particulier, et si le particulier n'a pas joué de bonne foi et qu'il entendait nous arnaquer, une fois qu'on a donné notre argent qu'il a fui, on souffre de le retrouver. Et encore quand il ne fuit pas, l'un des problèmes est le remboursement. Il n'a peut-être souvent pas de compte bancaire, il est confronté lui-même à des difficultés, ça devient un peu difficile. Je conseillerais de plus échanger avec des agences et sociétés immobilières.
Merci pour cette précision Jean-Louis Lobé, mais je vois des auditrices et auditeurs qui peut-être dans ce cas vous diront aussi malheureusement, des agences immobilières aussi a souvent ce genre de situation qui se pose.
Bien sûr.
Dans le cas d'espèce, comme vous le dites, il y a plus de garanties au niveau donc peut-être des poursuites judiciaires.
Au niveau des la garantie, c'est plus au niveau des poursuites. Parce que si tu as donné, je vais parler des thèmes assez comme familiers, donc tu as donné ton argent à quelqu'un, s'il a bouffé ton argent, et puis tu n'as pas pu avoir ton terrain, il faut que tu le trouves, il faut que tu le convoques. Mais si c'est une personne, on ne connaît pas son entreprise, on ne sait pas où il est, et puis il a fui, tu vas le trouver où? Donc il est plus facile de traiter avec ces personnes-là, mais ça ne veut pas dire que un particulier ne peut pas bien vendre le terrain. Parce qu'il y a des gens aussi qui créent des sociétés qui arnaquent.
Absolument.
Donc la garantie en termes de poursuite. Mais au niveau des papiers qu'on va vous présenter, que ce soit une société ou un particulier, il faut regarder. Parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui ont arnaqué des gens et qui ont conduit des gens dans beaucoup de problèmes. Donc c'est là que il faut regarder. La garantie doit vraiment être de mise pour nos auditeurs.
Vous avez parlé des impôts. Et aussi, je voudrais revenir sur ce point parce que c'est une mesure aussi importante à prendre lorsqu'on veut acheter une parcelle qui est bâtie ou non bâtie.
Oui.
Parce que celui qui vous vend, il faut aller jusqu'au niveau des impôts pour vérifier qu'il ne doit rien, qu'il
bien
a épuré.
C'est très important. Mm-hmm. Avec le numéro de compte contribuable. Déjà, vous voyez dans la procédure, par exemple, si vous avez une attestation villageoise, vous devez consolider vos droits. Donc, vous allez demander un ACD. Donc, vous allez vous inscrire dans le guide du village pour dire que c'est mon terrain. Vous allez faire ce qu'on appelle le compulsoire pour dénoncer ça au ministère. Vous vous inscrivez dans le guide du ministère. Après, vous prenez un géomètre, vous montez un dossier technique, vous demandez l'ACD. Et dans le processus de création de l'ACD, ils vont envoyer le dossier au cadastre pour créer ce qu'on appelle le titre foncier. En ce moment-là, ils vont créer un numéro de compte contribuable pour que vous puissiez payer les impôts. Donc, la personne qui vous vend, quand vous voulez acheter le terrain, il est important pour vous de connaître le numéro du compte contribuable, en tout cas du vendeur, en tout cas lié à cette parcelle-là. Aller avec au moins le titre foncier, demander aux impôts, est-ce que ce terrain-là ne doit pas des impôts? Parce que vous pouvez vous acheter un bien, croyant avoir fait une bonne affaire, mais vous retrouvez avec beaucoup d'impôts.
Et là, l'acheteur aussi a le droit de demander au vendeur un état des impôts.
Très bien, oui.
Au niveau des impôts.
Une attestation, par exemple, de régularité fiscale.
Exactement.
Vous suivez le best-of de Mon Droit au quotidien, QV 2024, avec Aoussi Potin.
Dans le courant du mois d'août 2024, plusieurs activistes de la cause LGBT+, en Côte d'Ivoire, exprimaient leur inquiétude après une vague d'agressions homophobes, verbales et physiques, alimentées par les réseaux sociaux qui ont visé les personnes homosexuelles ou transgenres. L'on signalait alors une trentaine d'agressions homophobes physiques. Afin de permettre aux uns et aux autres d'être bien situés sur ce que la loi ivoirienne dit sur le sujet, nous recevions en septembre 2024 Maître Francine Aka Angui, avocate et présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Extrait.
Vous suivez le best-of de Mon Droit au quotidien, QV 2024, avec Aoussi Pota.
Maître Francine Aka Angui, bonjour.
Bonjour, monsieur Aoussi.
Alors, Maître Francine Aka Angui, comme je l'indiquais dans ton introduction, notre numéro ce jour de Mon Droit au quotidien va s'intéresser à ces personnes qui se réclament de la communauté LGBTQ+, ou encore homosexuelles, puisque c'est un sujet qui, malheureusement, il y a de cela quelques semaines, a montré quelques signes de violence à l'endroit de ces personnes, plus précisément. Il nous a été donné de constater que ces personnes, membres de la communauté LGBTQ+, ont été, pour certaines, hein, récemment, la cible d'une virulente campagne sur les réseaux sociaux, faite d'injures et de publications menaçantes. Quel regard porte l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire sur ces faits?
En tant qu'organisation de défense des droits humains, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire ne peut que condamner et regretter les actes de violence qui se sont passés et de quelques personne que ces actes viennent. Parce que le principe, c'est que personne ne doit commettre de violence sur une autre personne. Personne ne doit causer de préjudice à une autre personne. Nous vivons en société et les règles de société, les règles de bienséance veulent que personne ne commette de préjudice à l'autre. Or, dans ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a eu vraiment de la violence verbale, de la violence physique, de la violence psychologique, et tous ces actes-là, évidemment, nous les décrions. Comme la Déclaration universelle des droits de l'homme nous le rappelle, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.
Alors, quels sont dans le cas d'espèce ces droits-là, Maître Francine Aka Angui?
Alors, ce sont les droits de tout être humain, c'est-à-dire, comme je le disais, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la santé, le droit d'aller et venir, de libre circulation, voilà, tous les droits auxquels les êtres humains ont droit, en fait.
Mais précisément, en terme de droit, est-ce que le droit ivoirien aussi indique que l'on peut vivre avec une personne de même sexe? En d'autres termes, que dit précisément la loi, par exemple, sur la famille en Côte d'Ivoire à ce jour?
Alors, en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut savoir, c'est que en matière sexuelle, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de loi qui interdise d'avoir telle ou telle pratique sexuelle.
C'est pas explicite.
C'est pas explicite.
D'accord.
Par contre, là où la loi est précise, c'est en matière d'union. C'est-à-dire que la loi sur le mariage, plus précisément, nous dit que le mariage est l'union entre un homme et une femme. C'est la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage et qui stipule donc en son article premier « Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par devant l'officier d'état civil ». Donc, les unions officielles entre deux personnes du même sexe ne sont pas autorisées. Elles ne sont pas légales. Mais on parle bien d'union.
C'est ça.
Maintenant, des relations entre deux personnes du même sexe, la loi ne les a pas formellement interdites. Si vous êtes dans votre maison entre quatre murs, bon.
Ça n'engage que vous.
Ça n'engage que vous.
Deux fois par semaine, rendez-vous pour découvrir vos droits et devoirs dans Mon droit au quotidien.
Précisons que sur le continent africain, l'homosexualité est criminalisée dans une trentaine de pays à ce jour et certains ont récemment durci leurs lois, comme le Burkina Faso, le Ghana ou l'Ouganda. La Côte d'Ivoire est souvent considérée comme un des pays les plus libéraux d'Afrique de l'Ouest en matière de mœurs.
Best of 2024 de Mon droit au quotidien.
Avec Aoussi Potin.
Restons avec la présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Maître Francine Aka Ngui. L'année 2024 a marqué les 40 ans d'existence de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, en abrégé AFJCI. Sur deux numéros de votre magazine Mon droit au quotidien, nous avions reçu Maître Francine Aka Ngui pour nous dresser les acquis de cette association en matière de défense des droits et devoirs de la femme et de la jeune fille en Côte d'Ivoire, mais aussi pour jeter un regard panoramique sur les acquis notables dans notre pays dans ce domaine. En voici quelques extraits. Maître Francine Aka Ngui, bonjour.
Bonjour, monsieur Aoussi.
Alors, 40 années d'existence, ça fait beaucoup. Ce n'est pas rien pour une association. Alors, quel bilan est-ce que vous faites de ces 40 années d'existence de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Maître Francine Aka Ngui?
Effectivement, 40 années, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Hein. Quand on voit tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui reste à faire.
C'est ça.
Voilà, mais nous avons fait quand même beaucoup.
Beaucoup.
Nous avons fait beaucoup.
On va pas être exhaustif, hein,
mais déjà. Oui, bien sûr, bien sûr. De manière générale, nous avons assisté les populations d'un point de vue juridique et d'un point de vue judiciaire. Juridique, c'est-à-dire c'est les conseils juridiques que nous avons donnés. Quand nous avons fait une évaluation, je vous assure qu'aujourd'hui, on a touché plus de 100 000 personnes.
100 000.
On a, oui, plus
c'est
de 100
beaucoup.
000 personnes. On a touché plus de 100 000 40 personnes.
40 années. Hein.
Ouais. Ouais. Et femmes comme hommes, hein. Et donc ce sont des consultations juridiques que nous avons faites et des assistances judiciaires, c'est-à-dire accompagner les personnes dans leur procédure au tribunal ou devant les autorités de police ou autres. Ça, c'est de manière générale pour ce qui est l'assistance. La vulgarisation des textes de droit, bon, ça, c'est quelque chose que nous faisons au quotidien. Mais là où je peux dire que nous avons quand même apporté, nous avons contribué à la modification des textes du Code de la famille, tout ce qui est mariage, succession, filiation, puisque quand nous faisons nos sensibilisations, nous faisons des rapports au ministère de la Justice, au ministère de la Femme, et nous leur apportons un peu quelles sont les préoccupations des populations, les préoccupations juridiques. Il faut dire que ces préoccupations donc ont été prises en compte, plus ou moins en tout cas, avec les dernières réformes de 2019. Nous avons aussi la satisfaction d'avoir eu la loi sur le quota de 30% de candidatures féminines. Ça aussi, c'est un texte pour lequel nous avons fait beaucoup de sensibilisation.
De lobbying.
De lobbying, de plaidoyer. Mmh. Voilà, c'est le terme de plaidoyer. Nous avons eu aussi le texte sur l'interdiction des mutilations génitales féminines. Nous avons obtenu aujourd'hui des textes sur les violences basées sur le genre.
Exactement.
Voilà. Donc vraiment, je pense que sur le plan législatif, on a pu apporter en tout cas notre pierre à
l'édifice. De grosses avancées aussi.
Tout à fait.
Best of 2024 de Mon droit au quotidien.
Avec Aoussi Potin.
La Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée chaque année le 1er décembre. La Côte d'Ivoire n'a pas dérogé à cette tradition le 1er décembre 2024. Un pays qui compte, selon les derniers chiffres, 407 595 personnes vivant avec le VIH, tous âges confondus. Et nous recevions Madame Kwaku, épouse Nguessan Aya Priscilla, spécialiste des questions des droits humains, plaidoyer et du genre, et chargée de mission plaidoyer à l'ONG Espace Confiance, pour parler des droits fondamentaux de ces personnes sur la base de la loi numéro 2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le sida en Côte d'Ivoire. En voici quelques moments forts.
Vous suivez le best-of de Mon droit au quotidien, QV 2024, avec Aoussi Potin.
Madame Kwaku, bonjour.
Bonjour, monsieur.
De quelle protection juridique bénéficient les personnes vivant avec le VIH-SIDA aujourd'hui en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, toutes les personnes vivant avec le VIH bénéficient de toutes les dispositions juridiques existantes. Parce que, comme vous le savez, la loi a un caractère général et impersonnel. Mais de manière spéciale, il y a une loi qui leur a été dédiée, qui est la loi numéro 2014-430 du 14 juillet 2014, portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le SIDA. Et c'est une loi qui couvre trois aspects clés, notamment la prévention, la protection et la répression liée au VIH. Que devons-nous entendre par prévention? La prévention prend en compte un aspect clé qui est le dépistage. Et le dépistage au VIH répond à des critères bien définis par la loi, notamment un consentement libre et éclairé, et aussi la question de la confidentialité. Lorsqu'une personne est dépistée, si son résultat est positif, l'acteur du dépistage est tenu par la loi à garder le résultat de manière confidentielle.
Alors, quel recours offre cette loi à une personne, par exemple, vivant avec le VIH, qui se considère victime d'injustice ou de discrimination dans le cadre professionnel?
La discrimination est également punie par la loi VIH en son article 52. Qui dit est puni d'un emprisonnement de 3 à 12 mois et d'une amende de 20 000 à 1 million de francs quiconque commet à l'égard d'une personne une discrimination fondée sur sa séropositivité avérée ou présumée. Partant de cet article, un employeur qui décide de licencier un employé sur la base du statut sérologique avéré ou présumé va écoper de cette peine. Et la loi sur le travail, l'article 4 également nous dit que la personne qui est licenciée sur la base de son statut sérologique, cette action n'est pas considérée comme un licenciement. Donc, si la loi doit qualifier ce licenciement, il sera qualifié de licenciement abusif.
D'accord.
Et l'employeur va écoper des dommages et intérêts qui sont prévus par la loi.
Best of 2024 de Mon droit au quotidien.
Avec Aoussi Potin.
Voilà, ici prend fin notre numéro spécial de ce jour de votre magazine Mon droit au quotidien, qui nous le rappelons, a consisté à vous permettre d'écouter ou de réécouter quelques extraits de sujets produits durant l'année 2024. Portez-vous bien dans la bonne connaissance de vos droits et devoirs.
C'était Mon droit au quotidien, votre magazine de promotion et de vulgarisation du droit. Présentation Aoussi Potin.